Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il n'y a vraiment que RTL qui est une bonne radio, quoi.
Quelle heure est-il ?
Ah, faut dire maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Facile, 4 quarts.
Un quart qu'à 6.
4 jours et un micro.
Un quart citron, un quart en bas.
On ne va pas du tout baser autour de l'apéro.
Je suis en train de tout remettre en question.
Tu veux qu'on prenne 5 minutes ?
Je pense qu'on n'est plus à 5 minutes près, hein.
Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait
4 quarts d'heure.
Je suis Alix Martineau.
Bravo.
Et aujourd'hui, je suis avec Louis Petrouchka.
Ouais, bravissimo.
Caline Rompel.
Ouais.
Camille Laurent.
Ouais.
Mes oreilles.
Mes voisins. Ouais. Merci d'être fidèle un mardi de plus dans cette émission qui regroupe nos ups et nos downs tour à tour. Voilà, c'est le concept de cette émission. C'est la fin. On commence toujours par un down pour finir sur un up pour vous mettre de bonne humeur. Youhou. Qui veut se plaindre ou raconter une histoire de merde aujourd'hui ?
Allez, vas-y, moi j'y vais.
Allez, Camille.
Allez.
Bon. Déjà, j'ai une ampoule qui a grillé dans ma salle de bain.
Ah putain.
C'est un véritable cauchemar.
C'est la suite du journal intime. Page 2.
Cher journal, aujourd'hui, je suis entrée dans ma salle de bain. Et ce grand néon, qui, oui, présentait des signes de faiblesse,
a clignoté depuis 8 mois.
Totalement me lâcher. Et c'est terrible parce que ce qui me rend le plus folle, c'est que là, ça fait environ une semaine. Bon, pourquoi je le change pas ? Bah, parce que je sais pas faire. T'as dit quoi ?
Parce que t'as peur.
Oui, parce que j'ai essayé de tirer un peu dessus, mais pour voir... Parce que comment on sort un néon ? Vous savez ça, vous ?
Bah, normalement, t'as un petit truc sur le côté, j'avais ça dans ma salle de bain.
Ah, ça se clipse ?
Qui déclipse la partie vitrée,
ah,
et après, t'as plus qu'à enlever l'ampoule en longueur.
Et oui, mais moi, c'est un truc qui a été fait par un bricolo, donc c'est entouré d'un cadre en bois qui a été fait visiblement à la main. Enfin, bref, j'ai essayé de tirer l'ampoule, il y a des fils qui venaient, j'ai dit, bon, je vais prendre feu.
Et t'as l'électricité ?
Avant de faire ça ?
Mmh.
Bien sûr que non.
Donc,
non, mais j'ai.
T'as rien appris de Clo-Clo ?
Ah ! Clo-Clo, chanteur ? Mauvaise réponse. Pardon. J'ai une référence à la chronique de Yann Moix. Bah, arrêtons de faire de la pub à Yann Moix, putain ! Bon. Donc, trop hâte que mon plan dodo revienne pour changer cette ampoule. Parce que je sais pas faire.
J'ai fait ça le jour.
Woman. J'ai dit, il y avait un type qui était chez moi. Et il me dit, ouais, je peux partir. Je dis, bah, tu fais ce que tu veux. Et je lui dis, bah, avant de partir, tu peux régler ça dans mon dressing, parce qu'il est grand, tu vois. Donc, c'est top.
Bah, ouais.
Ça sert à ça aussi.
Non, mais bien ça sûr. Pourrait être une femme, mon plan dodo, mais une femme qui sache changer les ampoules, quoi. Juste
oui.
Pas wham, quoi.
Beaucoup de femmes savent le faire.
Oui, bah oui, j'en doute pas.
Ici,
il y en a des biens.
Au moins
une.
Not all women.
Not all women.
Bon, mais ça, c'est pas le plus grave, même si c'est chiant comment tu prends des réflexes de trucs de ta vie quotidienne.
Mais du coup, as-tu des ampoules dans ta salle de bain autre que ce néon ?
Oui, oui. Donc,
ah bon, ça va.
C'est ça. Mais j'aime pas la lumière que fait l'ampoule qui reste.
Ah.
Et surtout, je suis conditionnée à rentrer dans ma salle de bain où il fait noir et aller jusqu'à ce néon pour l'allumer. Et donc, chaque fois que j'appuie sur ce putain de bouton qui marche plus depuis une semaine, j'enrage un petit peu plus. Parce que j'appuie, il n'y a pas de lumière, c'est énervant.
Mais n'hésite pas. Hein,
mais non, si seulement.
Pas ton plan dodo, mais je peux t'aider peut-être.
Bon, bah écoute, passe à la messe. Déjà, faut que j'arrive à acheter le bon modèle.
Mais ça, je te conseille de l'enlever avant et quand tu vas à la boutique, tu montres un gars qui connaît, tu dis
oui,
la même
oui,
chose.
Oui, c'est ça, je vais
mais
faire.
Mais ouais, faut faire ça. Mais en fait, la démarche, parce que moi, je me suis longtemps demandé où est-ce qu'on achetait des ampoules, tu vois.
Où.
Et tu vois, et en fait, moi j'aime bien les ampoules un peu chaudes parce que dans mon appart, comme vous le voyez, en ce matin, pas du tout ensoleillé, il n'y a pas de lumière. Donc, je suis obligée d'avoir des lumières un peu chaudes parce que sinon, on dirait que je suis dans un hôpital.
Oui. Mmh.
Et donc là, en ce moment, j'ai ma lumière de chambre qui clignote. Donc là, je l'économise. Je n'allume plus ma lumière de chambre pour économiser l'ampoule pour pas avoir à la remplacer.
Mais tu sais maintenant où on achète les ampoules.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, chez Leclerc, non ?
Partout.
Peu importe, hein, vraiment.
attends, il y en a partout et ça dépend de quelle lampe t'as et parfois t'as des types d'ampoules un peu
ouais c'est
complexes.
Ça mais en fait moi j'ai des petites crises d'angoisse
quand
j'arrive
chez Bricorama ou ouais. Bricomarché oui, tu vois
mais en fait de j'ai des petites crises d'angoisse parfois je regarde je me fais ah putain ici il y a des ampoules faut que je m'en souvienne et surtout je regarde et je me dis bah déjà je sais pas le cul de mon ampoule je sais pas quel le fiono tu vois et surtout comment reconnaître une ampoule lumière chaude de lumière froide? J'imagine que c'est marqué dessus quelque part. J'ai fait une petite crise d'angoisse avant de pouvoir remarquer, de pouvoir savoir où c'est. Ailleurs. Donc voilà. En attendant, je vis dans le noir et ça se passe très bien.
Comme Camille dans sa salle de bain.
Bah ouais, je pisse dans le noir. Ça s'achète tout, les grands néons. Ça, c'est pas partout, ça.
C'est dans les magasins de bricolage.
C'est Brico Machin, ouais. Bon, oui. Bah, je suis bonne pour un tour à Brico Machin.
Il y a un Brico à Machin.
Bricom, comme on l'appelle. Bricom. Pas. Les bonnes résolutions.
S'il y avait que ça qui allait mal dans ma vie. Non, mon down, c'est que je me mets trop la pression.
Oh, étonnant.
Et je sais que j'ai. Ah, toi, ça t'étonne pas?
Non.
Ok. Parce que, oui, tu sais que je suis sous pression. Tu sais que je suis une personne sous pression.
Oui, je sais que tu te noies dans un verre d'eau rapidement, oui.
Ouais, voilà.
non, parce que...
Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Bah si, parce qu'elle se met la presse de trop vouloir réussir les trucs et de tout faire en même temps, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Et en fait, bon, là, par exemple, je suis venue chez Alix en pyjama. Et j'ai l'impression que je projette une image nonchalante.
Attends, vas-y, continue cette phrase.
Je sais pas, souvent les gens ils me font ça comme retour de mes passages sur scène en stand-up, que j'aime bien ton flegme mais ton côté j'en ai rien à foutre, alors que moi sur scène j'étais en train de mourir de stress et d'être en concentration maximale, tu vois. Mais je sais pas, apparemment j'ai un flow un peu nonchalant.
Bah comme dirait Cécile Chaduteau à la Starac, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur et bien le redire à l'extérieur.
Ouais, bah ça, c'est tout mon travail du moment.
Ok, Cécile Martineau.
Ah, bah ouais, mais Cécile Chaduteau a pas toujours des retours super. Hein,
c'est, ce
qu'on dit.
C'est ce que j'ai dénoncé dans le dernier cinquième quart d'heure. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter
tout le monde.
Le débrief de la Starac.
Oui, en attendant qu'on ait notre podcast spécial Starac.
Putain, trop hâte.
Et donc, je me mets trop la pression, mais je le vois pas tout de suite. Parce que pour moi, c'est réel, tu vois, genre, toutes les angoisses que je me mets. Elles sont réelles, genre là par exemple j'essaie d'écrire un spectacle de stand-up, le saviez-vous?
Ouais.
Et donc on est arrivé fin janvier et j'étais là, j'ai commencé à angoisser en mode oh là là, on est fin janvier, j'avais dit que j'écrivais tous les jours, je suis allée que 3 fois au café, comment c'est possible parce qu'il y a 30 jours, comment je me suis démerdée alors que j'ai que ça à faire. Et puis ok j'ai testé des nouvelles blagues mais bon allez j'ai quoi, j'ai 8 minutes, allez non j'ai 5 minutes de nouvelles blagues, 5 minutes en un mois, bon bah il va me falloir 3 ans pour écrire ce spectacle. Et donc ça a commencé à monter comme ça et j'ai pas capté tout de suite. Et puis un jour, vous rappelez-vous, on a enregistré un 4 quarts d'heure où on a picolé.
J'étais pas là, bien sûr.
Et il y a un 5e quart d'heure sur cet épisode aussi.
Ouais, j'avais commencé à essayer d'arrêter de boire, donc ça faisait 3 jours que j'avais pas bu. Et quand je suis arrivée à cet enregistrement, Pépé Audi, notre invité, avait acheté une bouteille de vin. J'étais déjà surexcitée juste par la présence de la bouteille de vin. Après, tout le monde s'est servi un verre avant de commencer l'enregistrement. Moi, je me sentais punie parce que j'avais décidé de plus boire et tout. Mais c'était insupportable et ce jour-là, j'avais trop le petit démon de la fête. Et après, bah, vous savez comment ça s'est fini.
Si vous écoutez bien c'est le cinquième quart d'heure,
si
non
vous écoutez le cinquième quart d'heure, vous avez eu tout l'historique de la soirée qui s'est fini à 5h du matin. Je vous la fais courte. Donc, j'ai pas tenu ma sobriété. J'avais trop envie de boire ce soir-là. Et après, j'ai capté qu'en fait, j'avais cette envie de boire pour faire taire mon juge intérieur qui était en train de me dire « Tu n'as pas assez travaillé au mois de janvier ». Et c'est terrible parce que, oh, Coppola, elle vient sur moi. Oh punaise, le chat vient sur moi. Le chat sauvage. Bon, c'est tout.
Pas trop.
Et attends.
Non, elle va se mettre entre nous. Elle
mais là,
se
si je la caresse, elle va me gifler.
Toi, ouais, ouais.
Ok. Bon, tant pis.
Toi, tu peux pas. Moi, je peux, car je suis la maîtresse. Oh, mais toi, non.
Elle monte sur mes hommes.
Ah, ça me déconcentre, elle est trop mignonne. Bon, allez, je me concentre. Donc oui, le problème... C'est que mon juge me dit tout le temps de travailler tout le temps. Vous vous rappelez quand j'avais dû mettre un panneau en face de mon lit, The Universe Just Wants You to Breathe?
Oui, oui.
Pour me rappeler que je pouvais me détendre et que j'étais pas obligée de faire des choses pour avoir de la valeur.
Tu l'as enlevé?
Non, je l'ai enlevé parce que ça y est, je me réveille plus dans l'angoisse là, j'ai progressé.
D'accord, bah, faut le mettre ailleurs alors.
Je l'ai mis ailleurs dans ma chambre, quoi. Okay. Mais j'ai plus besoin de le voir en me réveillant le matin parce que là, ça y est, je me suis un peu détendue.
Apparemment, t'as besoin de le voir le soir donc.
Ouais, avant d'aller picoler.
Avant d'aller au stand-up, peut-être.
Ouais, maybe. Malheureusement, au stand-up, il suffit pas de respirer, mais bon.
Bah, ça pourrait t'aider à désangoisser déjà un peu, peut-être.
Oui, mais c'est pas d'aller jouer qui m'angoisse. Enfin, c'est au global, c'est mon mode de vie, en fait, d'avoir toujours peur de pas assez travailler.
Oui.
Et c'est ça, mon down. Parce que, surtout quand t'es indépendant, où il y a personne qui te dit « ça y est, la journée est finie » ou « ça y est, t'en as fait assez pour aujourd'hui, cette semaine, etc. etc. » Oui. Donc, je suis là, je me mets un max de presse.
Mais en fait, ouais.
Vas-y. Bon,
moi qui suis l'experte de l'organisation et de tous les trucs d'organiser sa vie, il y a des tips de trucs, justement, quand t'es indé, pour t'empêcher de soit surtravailler, soit de trop te mettre la presse et tout. Il y a des trucs, moi je sais que j'ai essayé 12 000 fois ça, parce que pareil, moi je suis une personne qui ne sait pas s'arrêter de travailler, et qui a l'impression qu'à la fin de la journée, j'ai rien fait. Alors qu'en fait, j'ai fait des trucs juste, peut-être j'ai fait des trucs qui n'étaient pas prioritaires, ou peut-être j'ai fait des trucs qui n'étaient pas ce que je voulais moi prioriser, bref. Et donc du coup, il y a des techniques qui sont des trucs que vraiment, genre, j'ai vu dans 150 000 vidéos, donc je vais pas vous annoncer des trucs groundbreaking, mais c'est genre, le matin, tu te réveilles, tu te mets 3 tâches et pas plus. Et il y en a une qui est prioritaire absolument qu'il faut que tu fasses, et si t'as fait ça, c'est déjà, t'as gagné ta journée, tu vois. Et en fait, c'est te récompenser aussi des petits trucs que tu fais, et du coup, en fait, ces 3 tâches, c'est aussi t'apprendre à prioriser, t'apprendre à te dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma journée, versus qu'est-ce que je dois faire pour, genre, par exemple, à 4 quarts d'heure, on a des sponsors à écrire ou des trucs comme ça, je sais pas, le lundi, ça va être finaliser les sponsors et basta, et le mardi, ça va être, je vais 2 heures dans un café, tu vois.
Ouais, mais je pense que je fais déjà ça. Je pense que mon problème, c'est pas prioriser les tâches ou les organiser. C'est juste dans ma tête le problème. En fait, le problème se pose le jour où j'ai pas envie de travailler.
Oui, mais est-ce que tu écris les trucs? En fait, c'est du coup, en fait, dans un système où t'as les tâches qui sont déjà préfaites pour toi dans ta semaine, c'est pas que t'as pas envie de travailler, c'est juste que du coup, t'es en mode, bon, si je fais juste ce truc, ça va me prendre 1 heure, c'est ok, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, mais moi, le fait d'écrire, genre, j'ai les trucs importants de ma semaine, où je sais que c'est tel jour j'ai ça à faire, tel jour j'ai ça à faire. Bah, en fait, quand je me réveille le matin, je suis pas en mode, je suis un papillon et je vais vaquer à mes occupations et je ne sais pas quoi faire de ma journée, tu vois. Parce que je me suis déjà dit au début de semaine, tel jour, ça serait cool que je fasse ça, tu vois.
Ah, mais moi, je suis pas du tout un papillon, j'ai un agenda avec des tâches à faire, tu vois. Mais c'est pas ça mon problème, c'est vraiment dans ma tête d'être toujours sous pression et de du coup pas savoir s'arrêter, tu vois. Mon problème c'est pas de faire les choses, c'est d'arrêter de les faire justement.
Non, parce que tu viens de dire que tu voulais écrire et que tu l'as pas fait, donc pourquoi tu l'as pas fait?
Ah mais si, mais en fait je pense que je l'ai fait suffisamment.
Ah ok.
Le leurre il est dans me dire que c'était pas assez, tu vois.
Ah ok.
Bah ouais, parce que... Et puis aussi, voilà, un spectacle c'est long, ça prend du temps... Pourquoi c'est devenu un problème d'avoir écrit que 5 minutes en janvier? Parce que je pensais qu'en 3 mois, je devais avoir sorti 1 heure, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est de penser qu'en 3 mois, tu dois sortir 1 heure.
Oui, bien sûr.
Tu vois? Parce qu'en vrai, j'en fais plein du travail. Je vais jouer tous les soirs.
Oui.
Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand je dois m'arrêter, je me dis, est-ce que j'ai le droit de passer une journée en n'ayant fait qu'une seule tâche? Oh mon Dieu.
Puis en plus, c'est un truc nouveau. Enfin, tu vois, c'est la première fois que tu écris
un
spectacle.
Et oui, il faut que ça rentre dans ma routine.
Et surtout, tu sais pas, en fait, les temps. Enfin, tu vois, tu sais pas en combien de temps tu sais faire une demi-heure, tu sais faire 1 heure. Enfin, tu vois, ça prend du temps.
Oui, quand tu l'as fait une première fois,
tu sais un peu plus ce qui t'attend.
Tout à fait. Non, et puis c'est aussi, je pense... que à l'inverse, je me surcharge de travail parce que c'est aussi une petite stratégie d'évitement de... Tant que je suis occupée, j'ai pas le temps de me sentir mal, par exemple, tu vois. S'il y avait des problèmes plus profonds à régler et tout, comme ça, j'y pense pas. Si je m'arrête, je vais potentiellement être triste parce que je mets trop de tristesse sous le tapis depuis trop longtemps.
Ouais.
Donc, je pense que c'était un peu ça. Et donc, je suis en combat entre mon enfant intérieur triste qui a des jours où juste elle est effondrée, tu vois, et qui peut pas travailler. Et mon juge qui est là, quoi, mais c'est un scandale, on peut pas s'arrêter de travailler parce qu'on est déprimé, c'est interdit par la loi du travail.
Ouais.
Et ouais. La fameuse.
Le code.
Et alors, terrible, un jour j'étais trop déprimée, je devais annuler une scène le soir là, mais j'ai passé toute la journée bloquée dans ma déprime à me culper que j'allais définitivement pas pouvoir aller à cette scène parce que avez-vous essayé de...
Elle a vu.
Attaqué par le monstre. Attaqué par Copo.
Rasputin.
avez-vous essayé de faire du stand-up en pleurant? Bon, peu convaincant.
Eh oui.
Et donc, finalement, j'ai appelé pour annuler. J'ai dit que j'avais la grippe parce que même si on évolue sur la santé mentale, c'est encore pas une excuse recevable au travail, j'ai l'impression.
Ouais.
J'assume pas, en tout cas. Et donc, voilà. Mais donc, je travaille là-dessus, mais c'est mon down parce que au final, bah, il faut que j'apprenne quoi, à savoir mesurer quand c'est assez, pas assez. Mais tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Twiggy, tu vois, comme il a dit dans Chicken Run. Wow, j'ai re-regardé Chicken Run, ça n'a pas pris une ride, putain.
Ah, c'est du génie. Ouais.
J'avais un chien qui s'appelait Twiggy en hommage à monsieur Twiggy.
J'ai peur de ouf, Chicken Run.
Ça t'a fait peur, Chicken Run?
Bah, Chicken Run, la méchante,
c'était
un peu
terrifiant. Mais
il broyait les poules pour en faire des petites tartes.
Bah oui, mais c'est quand même Auschwitz, yeah, tu vois. Enfin, c'est...
Ah bah oui, bah
oui. Oui.
C'est l'enfer. Enfin, moi, je me souviens, je regardais ça, j'étais terrifiée. Mais je
Est-ce que c'est pour ça que t'es devenue végétarienne?
Ouais, peut-être.
Et donc, tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Twiggy. Et parfois, on a le droit de s'arrêter de travailler, le saviez-vous?
C'est vrai.
Putain, j'ai fait ça hier parce que c'était mon premier jour de règle. Et en vrai, j'ai quand même travaillé parce que j'ai écrit un script, ouais. Machin.
Ah, moi, les premiers jours de règle, c'est l'enfer aussi.
Ah, mais là, c'est super bien tombé. J'avais pas de scène. J'ai pas de scène, là, aujourd'hui incluse, qui est mon deuxième jour. Et voilà.
Mais
et
moi, ça, maintenant, j'ai noté mes règles dans mon agenda.
Ah ouais, mais là, je vais le reporter pour le mois prochain. Parce que
c'est trop erratique. Je peux pas. C'est vraiment à n'importe quel moment.
Ah, dommage. Donc,
pas de prévision possible. Même si l'humeur, évidemment, me dicte que ça va arriver là, par exemple.
En fait, c'est juste que les tâches que tu fais dans ta journée, c'est pas obligé que ça soit du travail. C'est genre aussi, genre, bah, faire ton truc miniature. Je sais pas ce que tu faisais là.
Je fais un petit projet de serre miniature là. De petite quoi?
C'est une serre avec des toutes petites plantes et tout, c'est super.
Voilà.
Ah, j'ai pris le temps de faire ça là il y a deux jours.
Mais voilà, mais en fait,
c'est Fred, c'était
c'est
génial.
Que il faut alterner ces trucs là parce que je pense que c'est ça qui fait que tu te remotives aussi, c'est que tu prends le temps pour toi de faire des trucs qui te font plaisir.
Et c'est ça qui nourrit ta créativité en fait. Le truc c'est que si tu l'as, c'est ce qu'elle dit à Cameron, on le dit tout le temps, mais si tu remplis jamais ton puits, en fait, bah tu sais pas quoi écrire quoi. Donc et en plus je trouve que ça fait super du bien, moi je le fais plus là du tout et je le sens, mais de quand t'as une tâche un petit peu créative en dehors de ton travail, ça te fait tellement focus dessus que en fait ton cerveau
est libre pour être inspiré justement.
Exactement. Et là j'ai remarqué avec le fait de plus avoir d'ordinateur portable dont je vous parlais dans l'épisode précédent, en fait en vrai j'ai beaucoup plus d'idées qu'avant parce que bah au lieu d'être sur mon ordinateur, je fais d'autres trucs, je lis beaucoup
mais je peux pas les noter.
J'ai notes dans mon téléphone, tu vois. Mais même là, l'autre jour, j'ai pas eu de batterie dans mon casque Bluetooth. Bon, ça, en fait, j'ai juste petit aparté. J'ai compris un truc. Le fil, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans la vie. Relier un objet à un autre objet par un fil, c'est encore ce qu'il y a de plus stable. Parce que passer sa vie à charger des trucs, j'en peux plus. Donc là, c'était et pendant deux jours, j'ai eu la flemme de le charger. Donc pendant deux jours, je n'ai pas pu écouter de musique, ce qui n'arrive jamais. Et en fait, d'être libre dans la rue, de marcher, d'avoir du temps, t'es là. En fait, marcher sans écouter de musique, t'as quand même vachement plus d'espace pour envisager des choses.
Ouais, c'est clair.
Ouais, je me dis ça parfois, parce que moi je suis tout le temps perfusée à la musique.
Et moi aussi.
Et je pense parfois c'est un peu pour m'empêcher de penser, ouais.
Bah carrément, le bruit, en fait notre capacité à jamais pouvoir être dans le silence, à être en permanence branchée à regarder un truc sur YouTube, ou regarder un film, une série, ou écouter de la musique, t'as pas d'espace pour penser en fait.
Ah, j'ai commencé la méditation, mais bon, on reste dans un down, mais... En tout cas, je vous tiens au jus.
Un mini roller coaster.
Ouais, un mini roller coaster.
Bah, merci beaucoup, Camille.
Un plaisir.
Pour ce down. C'est vrai que ça a foutu un petit coup. Qui veut nous remonter le moral?
Qui a un up?
Moi, je sais pas, up super fun.
Ouais, moi non plus, c'est pas.
Ah, merde,
trop bien, parce que moi, j'ai un down super down, donc on va passer un épisode vraiment.
Je me fais attaquer par le chat. Je peux poser mes pieds par terre, s'il te plaît?
Merci.
Elle est un peu en chasse, là. Ouais.
Là, on sent qu'elle est, ouais.
On peut pas lui lancer un petit jouet?
Non, bah voilà, non, tu sais, elle joue pas avec les humains, elle joue.
Ah oui, c'est vrai.
Bah sinon, mais moi j'ai un up qui est super, dont j'ai peut-être déjà un peu. Que j'ai déjà évoqué, il me semble, c'est que mon partenaire de déménagement, de fermer carton et de défermer carton, ça a été un podcast qui s'appelle Game of Roll. Et Game of Reroll, dans lequel il y a Alix Martineau ici présente.
Vous continuez?
Non, ça s'est arrêté. C'était la dernière
saison. So sad.
D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans 4 quarts d'heure, mais c'était un vrai moment difficile.
C'est vrai?
D'arrêter Game of Reroll, bah, j'imagine, ouais.
Ouais, parce que bah, j'ai quand même joué ce personnage pendant 3 ans.
Alors attends, je vais mettre du contexte.
Vas-y.
Et après, comme ça, on peut faire dans l'ordre. Donc, Game of Reroll, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique presque, un jeu de rôle finalement. Alors le jeu de rôle, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Si vous avez vu Stranger Things, vous les avez vus jouer des personnages dans Donjons et Dragons. Peut-être vous connaissez le nom de Donjons et Dragons. En gros, c'est tu joues un personnage et t'es avec tes amis dans la vraie vie. Et tu, genre, par exemple, Camille, ça serait un mage. Alix, c'est une sorcière.
Je serais grave un mage.
Et Kalindi, je sais pas, c'est la reine de je sais pas quoi. Et donc, chacun joue son...
Des océans.
Des océans, bien sûr. Super. Et chacun joue son rôle. Et en gros, t'as une fiche de personnage avec des points forts et des points faibles. Par exemple, bah, je sais pas, genre, si t'es un guerrier, t'es hyper fort en force, mais t'es pas très intelligent. C'est un peu des trucs clichés, mais voilà, je vous dis pour l'idée, quoi. Et du coup, à chaque fois que tu veux faire une action dans le jeu, il y a un maître du jeu qui te dit, bon, bah, vous êtes, je sais pas, dans un palais, vous pouvez aller dans un couloir où il y a une librairie, ou une bibliothèque, pardon, ou alors il y a une salle au trésor, où est-ce que vous voulez aller? Et donc, ensemble, vous décidez de où est-ce que vous voulez aller. Et quand vous voulez faire une action, par exemple, je sais pas, genre assassiner un troll, eh ben, il faut faire un jet de force. J'essaye d'expliquer le jeu de rôle aux gens qui n'ont jamais
fait de
jeu de rôle. Et donc, moi, ça fait des années que Mimi Hegel, qu'on a déjà reçu dans ce podcast et qui était chez Mademoiselle anciennement, en parle, parle de ce podcast et dit que c'est trop bien et tout. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me commence à me lancer dans le podcast et c'est pareil, je devais avoir une activité vraiment longue et fastidieuse à faire et j'étais en mode la flemme de le faire sans rien écouter justement, donc j'ai branché mon casque sur mon téléphone car j'ai un fil et, et du coup j'ai commencé à écouter Game of Thrones et je savais pas à quelle saison commencer parce qu'il y a là maintenant je crois qu'ils sont à la saison 7 ou 8 je sais plus, bref ça fait beaucoup de saisons et donc c'est un podcast qui est animé par Fibre Tigre qui a été d'ailleurs créé par Fibre Tigre parce qu'en fait lui il écrit tout le monde imaginaire dans lequel ce jeu de rôle se passe, qui s'appelle.
Alors, il coécrit.
Il coécrit, ouais. Mais c'est lui qui a créé le monde.
Ouais, il a créé vraiment le monde entier. Il a fait plusieurs émissions qui sont indifférentes.
Ouais, qui s'appelle le monde d'Aria. Et donc, en gros, à chaque fois, les personnages dans les différentes saisons évoluent dans ce monde-là. Donc, tu connais les lieux et tu peux connaître, genre, les différents peuples et tout. Mais à chaque fois, c'est des nouveaux persos, c'est différentes époques, bref. Et donc, moi, je commence à écouter à partir de la saison 6 parce que c'est un renouveau dans le podcast. Donc, le podcast, il y a 4 personnages qui sont joués par Lamua, Daz, Lydia et Mr. MV, qui est un gros Twitcher. Vous qui connaissez bien Internet.
Twitcher, va.
Twitcher, arrête de twitcher.
Et donc, en gros, chacun joue un personnage et je commence à écouter ça. Et en fait, Mimi avait raison. Je me tape d'énormes barres parce qu'ils font toujours n'importe quoi. Ils écoutent à moitié le MJ, du coup, ils savent pas. Le MJ, c'est le maître du jeu. Ils écoutent à moitié, donc ils savent pas vraiment la quête qu'ils doivent aller faire et tout. Ils s'arrêtent à parler avec des personnages qui sont débilos du cul. Et donc, c'est très drôle. Et à l'époque, chez Mademoiselle, on avait fait un épisode une fois avec Mimi, Camille, Lame et moi. Et en vrai, moi j'avais trop kiffé le faire, donc on avait des persos, moi j'étais censée être une voleuse et menteuse comme pas deux, je sais pas mentir, donc à chaque fois qu'il me posait des questions, j'étais en mode je sais pas quoi répondre, et donc Mimi me baquait à chaque fois. Et en fait du coup, bah, Game of Thrones Mademoiselle, ça a eu une première version comme ça, et après ça a eu...
Il y a eu une deuxième version, un deuxième one-shot avec Lucie... moi aussi, ouais, on a fait un deuxième one shot.
Ok.
Et à partir de ça, on s'est dit, allez,
on en fait un vrai truc.
On fait un vrai truc, ouais. Une vraie émission et tout qui était tous les mois.
Voilà. Donc c'était au début Game of Thrones.
C'est vrai, c'est fou qu'on en ait jamais parlé.
Bah ouais, moi c'était un vrai pan de ma vie. Hein.
Ouais, mais en vrai c'est trop. Et moi c'est trop bien parce que j'ai tout écouté et pour le coup moi j'ai écouté très en retard. Genre là je suis à la saison 7 je crois de Game of Thrones. C'était fin 2022 je crois. Donc j'ai encore largement des choses à rattraper et donc chaque épisode est découpé en 3 parties qui font à peu près 45 minutes, 1 heure. Et donc tu suis les persos, ils leur arrive plein d'aventures et tout. Et donc moi j'ai écouté...
Et surtout que entre les différentes émissions, il y a des ponts. Donc si t'as écouté tout Game of Roll, quand t'écoutes Game of Reroll, eh ben il y a des il y a du lore,
oui, y a
qu'on appelle le lore,
ouais.
C'est des références aux saisons d'avant parce que Game of Thrones, il me semble qu'on est dans le futur par rapport à Game of Thrones.
On est 400 ans après, un truc comme ça.
Et Game of Reroll, c'est donc la version qui venait de Mademoiselle. Quoi.
Ouais, c'est ça. Exactement. Okay.
Ça a été Mademoiselle à la base, et après, c'est
comme tout le monde est parti de Mademoiselle, on s'est dit, voilà. C'est plus Mademoiselle.
Voilà. Et donc, du coup, dans Game of Reroll, qui est absolument cool, et du coup, dont Alix pourra parler, puisqu'elle fait partie du casting, il y a donc Alix, Aïda, Clémence et Mimi. Qui sont toutes des anciennes de Mademoiselle et qui du coup jouent des persos de meufs et donc forcément qui ont des points de vue sur la société dans laquelle évoluent les personnages. C'est quand même un truc un peu fantasy à l'ancienne, un peu Moyen-Âge, tu vois. Et donc elles ont des avis surtout de manière féministe en fait, mais genre juste en évoluant dans le monde. Et donc notre chère Alix joue Isabeau de Cresserel qui un jour pécho un gars et finit par coucher avec lui, sauf que c'est le Moyen-Âge.
Je lance un dé
et voilà. Et donc hop. Tu lances un dé pour savoir si t'es enceinte, et donc elle lance un dé, elle est enceinte, et donc là c'est toute la quête devient genre comment on fait, parce que donc son perso a genre 16 piges et
j'ai
donc
16 ans.
Donc elle doit avorter, tu vois. Et donc c'est toute la quête de comment est-ce qu'elles vont trouver quelque chose pour réussir. Et donc elle trouve une plante et machin. Enfin bref, et c'est que des trucs comme ça. Et je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme une série en fait. Tu t'attaches vachement au perso. T'as forcément toujours un peu des préférés. Il se passe 12 000 trucs.
C'est qui ton préféré, Louise?
DJ Cactus, Clémence.
Mais du coup, ouais, il y a vraiment un truc très cool à suivre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en effet, entre chaque épisode, donc ils se retrouvent pendant 2 heures et demie, je pense, à chaque fois.
Plus
que ça.
3 heures et demie, ça dure. Ouais. Ouais, on se rejoint à 18h, on finit souvent à 23h30 minuit, tu vois.
Ouais. Waouh. Et donc du coup, bah, t'as tout le truc à écouter. Et donc moi, comme j'ai commencé tout en retard, je suis en train de rattraper tout. Et donc entre chaque épisode, il se passe, je sais pas, genre parfois 1 mois, 2 mois. Le dernier épisode de Game of Reroll, ouais, ça faisait genre 6 mois qu'elles avaient pas pu se retrouver toutes ensemble pour faire, pour jouer. Donc du
coup, il faut savoir qu'on a pas d'argent sur cette émission là.
Ouais.
Qui est un peu ce pourquoi ça s'est arrêté.
Ouais.
Mais sinon, sur Game of Thrones, ils ont masse thunes. Hein,
oui.
Ils sont très sponsorisés. Non, on n'est pas payé, mais surtout, on n'est pas sponsorisé. Donc, en fait, Gozulting, qui est une grosse boîte
de production de
Twitch,
stream, ouais.
De stream, en fait, ils nous prêtaient les locaux pratiquement gratuitement parce qu'ils aimaient bien le projet, tu vois.
Ouais.
Mais en fait, on n'avait pas les moyens de...
Ouais, ouais, dans Game of Thrones, l'autre version, il y a un écran derrière, y a un mec qui fait de la musique en direct pour mettre l'ambiance musicale.
Et nous, déjà, il y a un réalisateur, il y a une meuf qui fait le son.
Le maquillage.
Enfin, tu vois, il y a du maquillage. Il y a quand même...
Du maquillage.
Ouais,
ouais.
On fait
à l'écran,
du HMC.
Trop bien.
Et c'était, franchement, c'est trop cool déjà d'avoir ça alors qu'il n'y a pas d'argent sur cette émission. Je me dis, putain, c'est parce qu'ils devaient vraiment bien nous aimer.
Ouais, mais du coup, c'était trop bien. Et donc, moi, j'ai pu rattraper tout d'un coup. Et donc, quand tu rattrapes tout d'un coup, il y a entre 2 épisodes, il se passe 3 mois ou genre 2 semaines.
Ouais.
Et donc, les gens qui ont joué les persos se souviennent pas forcément. Qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle veut monter.
Ah, d'accord. Les gens qui ont joué les persos se souviennent pas forcément exactement de qui ils ont croisé, de quel personnage ils ont avec eux, etc. Et donc il y a des fois des micmacs où personne comprend plus rien et où le MJ, qui lui se souvient de tout parce qu'il révise, il est en mode eh ben là il y a machin, il va mourir, et ils sont en mode ah bon, mais on est avec truc, mais comment ça se fait et tout. Bon, bref, et donc c'est très drôle. Et moi
du coup, Isabeau de Cresserel, ouais, c'était une fauconnière à la base, et mon but, en gros, il te donne un peu une quête dans la quête principale où tu vas être avec tout le monde. Moi, ma petite quête, c'était de rencontrer tous les oiseaux du monde, un truc comme ça. Enfin, moi, ma
car
quête
tu
était...
es princesse des animaux.
Ouais, voilà, c'est ça. Ma quête était animalière. Sauf que c'est... En fait, Fibre Tigre aussi a capté, parce que c'est un excellent maître du jeu, c'est-à-dire qu'il est très fort en impro. En fait, cet exercice-là, il est inédit parce que t'as vraiment quelqu'un qui te décrit une scène. Déjà, tu dois te la faire dans ta tête.
Ouais.
Ça demande beaucoup d'imagination. Ça demande aussi beaucoup de réactivité et d'improvisation. C'est un exercice super intéressant et de jeu. En fait, tu reviens vraiment à un truc primitif, enfantin, tu vois. Mmh. Et vraiment, moi, mais à chaque fois, j'y allais. J'ai été tellement contente d'y aller parce que tu prépares rien. Enfin, tu révises si t'es une bonne élève, mais moi, je demandais à Clémence.
Oui,
tu
vous
vois.
Aviez Clémence.
Et tu prépares rien et tout. Et juste, tu joues, tu découvres l'histoire qu'on te livre en direct, tu dois réagir, ça change l'histoire, enfin voilà.
Qui prend la suite à chaque fois de l'épisode d'avant.
C'est ça.
Ok.
Et donc, nous, ça a duré 3 ans. Moi, j'étais pas là pendant notre deuxième saison. Ouais. Mais,
sad.
Bah non, parce que j'ai quitté Mademoiselle et du coup, comme c'était toujours Game of Thrones Mademoiselle, mais après, ils se sont dit, Alix, ça nous manque quand même.
Bah oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fonction des jets de dés, donc t'as des dés qui vont de 0 à 100. 0, c'est t'as trop réussi ton jet de dés, il va se passer exactement tout ce que tu veux, comme tu l'as imaginé. Tu vois, genre si t'essayes de convaincre quelqu'un de pas te tuer, par exemple, il va dire ok, pas de souci, en fait t'es super sympa, je t'épargne la vie, tu vois. Si tu fais 100 ou 98 ou machin, c'est vraiment
catastrophique.
Genre, catastrophique. Tu peux pas avoir un pire truc qui t'arrive. Et donc, du coup,
tu meurs en fait quand tu fais 100.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, le maître du jet, il est obligé de réagir en fonction des jets de dés. Et donc, il a un bout de scénario, mais lui, derrière, il est toujours obligé d'improviser en fonction de si tu fais de la merde ou pas et tout. Et du coup, c'est hilarant.
On a eu des... Parce que donc, du coup, celui qui écrivait sur notre saison, là, c'était Vincent Istria et Fibre Tigre. Et en fait, il y a des fois où, tu sais, on cassait l'épisode. Du coup, il y a 80 pages de scénario qui servent à rien.
Ouais.
Genre, et là, tu le vois tourner une page de scénario, tu fais « Oh putain, juste parce que j'ai pas parlé à la bonne personne, tu vois. » Et c'est trop... Enfin, je sais pas, il y a un truc de hasard parce que t'as les dés, de jeu. Et moi, j'ai tellement kiffé. Moi, je me suis mis à fond dans mon personnage, bon, qui me ressemblait pas mal. Donc voilà, à part le fait que c'était une enfant. Mais, et j'oubliais parfois. Oui. Et du coup, je couchais avec des mecs de 75 ans et j'étais là « Ah zut !» Et en fait, c'était trop bien parce que ma vie, c'était de récupérer tous les animaux. Donc, j'avais une sorte de horde d'animaux qui me suivaient en permanence parce que je les adoptais et puis surtout, je les domestiquais. Donc, je pouvais leur parler et tout. Et
c'est si drôle.
En fait, on a créé des trucs. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que je pense que Fibre a un peu... il a un peu fait en sorte que ce soit pas du Donjons et Dragons. Que moi, tu vois, les combats et tout, je m'en bats les steaks. Mais les jeux vidéo, je m'en bats les steaks,
vrai,
tu vois.
Game of Thrones, c'est pareil. Ils sont pas spécialement en train combat, de se battre, quoi. Et tout. Non, c'est
et
vraiment
nous,
juste
plus jeux marrants,
de...
tu vois. Et du coup, c'était plus sympa.
C'est une quête, t'avais quoi.
Des quêtes, des enquêtes. Enfin,
des quéquettes.
Des quéquettes aussi.
Quelques-unes.
Non, mais t'avais des... Mais moi, j'ai pleuré de rire, je sais pas combien de fois, en fait.
Ouais.
Mais de... Ouais, je sais pas, il se passait des vrais trucs, tu vois.
En fait, je trouve que c'est un podcast qui est vachement accessible parce que je trouve que quand tu dis jeu de rôle et que tu t'imagines Donjons et Dragons, enfin, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a un cliché qui est assez facile de se dire, genre, ouais, c'est. Les geeks dans leur. Vraiment, c'est genre Stranger Things, quoi. C'est les geeks dans leur cave qui jouent à Donjons et Dragons et qui s'imaginent qu'ils ont une épée, tu vois. Et en fait, en écoutant Game of Thrones, je trouve qu'il y a vraiment ce côté hyper facile d'accès. Et hyper simple. Et donc, si vous voulez écouter Game of Thrones, je vous conseille de commencer dès la première saison parce que du coup, toutes les aventures se suivent et c'est 3 saisons d'une seule histoire qui continue, quoi. Et si vous voulez écouter Game of Thrones avec Mister MV, Lame et compagnie, moi, j'ai commencé à la saison 6 parce que c'était vraiment genre le début d'une nouvelle quête et d'une nouvelle histoire complète, quoi.
Mais est-ce que quand ça s'est fini Game of Thrones, la quête était finie, genre vous avez bouclé l'histoire?
On a bouclé l'histoire.
Nice.
Ouais. Ah, moi j'ai eu envie de pleurer vraiment à la fin où tu sais c'était quand même mon personnage pendant 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Et ouais, enfin tu vois, tu te dis au revoir à un vrai truc. Alors j'ai l'impression d'avoir joué dans Friends pendant 14 ans, mais c'était quand même si je mets. J'étais très attachée aussi à mon faucon personnel qui s'appelle DJ Cactus. mais ce qui était trop bien aussi, c'est que, en fait, comme c'est sur Twitch, les gens qui sub sur Twitch, donc qui donnent de l'argent, qui s'abonnent, peuvent rentrer dans le scénario. Et c'est leur nom qui rentre dans le scénario. Wow. Donc DJ Cactus, c'est quelqu'un qui a subé et qui a fait le meilleur sub de sa vie, parce qu'il est resté pendant 3 saisons. Ouais, alors qu'il y a des gens, tu sais, qui sub et puis ils se retrouvent à être le type qu'on tue, enfin, tu vois, et donc, on le prononce 2 fois. Mais franchement, non, super aventure inside and out.
Ouais, voilà, c'était ma recommandation podcast.
Bah, bravo.
Bah, merci bravo à toi, Alix, puisque finalement, tu fais partie de cette belle aventure.
Et oui.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Eh bien, c'est à moi de faire un down. Et je vous avoue, c'est un vrai down. Et j'ai hésité, j'en ai parlé à mes camarades avant l'enregistrement de ce podcast, et j'ai hésité à le faire, à pas le faire. Après, je me suis dit, non, je le fais pas, je fais autre chose. Et puis si, finalement, je le fais. Bon, bref. Parce que, mi, ça me tient à cœur. Mi, je fais partie du problème. Donc c'est toujours...
On apprécie par avance ton honnêteté.
Bah non, ta lucidité. Voilà, faut se remettre en question. Et comme moi, j'étais persuadée d'avoir zéro red flag et d'être parfaite... Eh bien, voilà, je suis un peu deg parce que donc je vous ai parlé beaucoup du surf au Maroc, notamment j'ai fait tout un épisode sur mon prof de surf Tarek que j'embrasse. Et quelques jours après, en fait, vraiment 3-4 jours après, il y a eu un gros souci à Imsouan, qui est un des endroits dans lesquels j'ai surfé, qui est un petit village de pêcheurs pas très loin de Tamraght, là où j'étais. Et c'est vraiment des vagues, je crois que c'est la plus grande vague droite, la plus grande droite, du coup, on dit, d'Afrique. Enfin, c'est exceptionnel, c'est une vague de longboarder, donc c'est une petite vague un peu tranquille, tu vois, et donc t'as tous les longboards et tu surfes au milieu des falaises, c'est magnifique, et t'as un autre spot de surf qui s'appelle Cathédrale, qui est une autre plage dans Imsouane, où là c'est plus surf classique. Donc ouais, ça fait quelques années que le surf, ça devient une vraie destination de vacances pour les gens. Pourquoi tu rigoles toi?
Parce que ça fait longtemps quand même.
Non mais le camp surf...
Non.
Non mais ça fait... Non, en vrai, ça fait quelques années que ça devient vraiment... et que les surfeurs s'énervent aussi. Il y a beaucoup de localisme. Parce que les surfeurs sont saoulés d'avoir des débutants avec leurs planches qui partent dans tous les sens dans leur spot, tu vois. Et ça fait quelques années que c'est de pire en pire. Et que en vrai, le surf, ça devient aussi...
C'est mainstream, tu veux dire.
Ça devient mainstream. En tout cas, ça l'est. Il y a des camps de surf qui se multiplient. Enfin, t'en as des milliers. Parce qu'à chaque fois, vous m'envoyez des messages, vous me dites, ouais, c'est quoi ton camp de surf? En vrai, il y en a tellement. Enfin, je peux vous donner les miens. Je vous les donne une fois pour toutes. Comme ça, je reçois plus de DM sur ça, mais c'est Amado Surf Camp au Portugal et Pro Surf Marocco au Maroc. Bref, mais et donc...
Mais est-ce que du coup, il faut envoyer des nouveaux débutants dans ces surf camps?
Bah, en fait, c'est tout le truc. C'est que à la fois, c'est intéressant niveau touristique, mais c'est aussi, ça a créé un peu des tragédies, comme ce qui s'est passé à Imsouane, donc quelques jours après que j'en ai parlé dans le podcast. En gros, le gouvernement marocain a donné 24 ou 48 heures de préavis aux gens qui habitaient côté cathédrale. Donc, c'est le petit village qui était vraiment perché sur la roche. T'avais même des maisons troglodytes et tout. Mais c'était un très vieux village marocain. Et en fait, ils ont rasé l'intégralité du village en un ou deux jours. Ils ont dit aux habitants, vous prenez vos affaires, vous partez, le village va être rasé. Pourquoi ? Alors, j'essaie d'être aussi précise que possible, mais je suis pas au courant de tous les détails. Mais en gros, le gouvernement, c'est pas légal au Maroc d'avoir un bien qui donne sur le front de mer.
Okay.
Genre, tu peux pas posséder un truc. Ça appartient au gouvernement marocain. Ce qui est parfois bien dans un sens, puisque ça permet aussi de pas pouvoir acheter, que les touristes, par exemple, puissent pas acheter des trucs sur le front de mer, etc. Mais ça veut dire aussi que quand le gouvernement marocain a repéré que, par exemple, à Imsouane, il y a énormément de touristes qui y vont, eh ben, ils rasent pour potentiellement faire des resorts après, pour faire du tourisme un peu plus de luxe, alors que les gens qui venaient à Imsouane pour surfer, en règle générale, c'est des gens qui viennent pour aussi apprécier la culture locale, etc. Et donc, en fait, là, le fait de complètement rayer cette partie-là, notamment pour les gens qui habitent là-bas, c'est terrible parce qu'ils ont perdu leur logement. J'ai vu une interview d'un mec qui avait la plus vieille maison d'Imsouane, qui était une maison troglodyte. Donc, il avait fait une petite auberge de surf où, voilà, il avait quelques surfeurs et puis bon bah il a dû être viré de chez lui et ça a été rasé parce que en fait il était pas, alors je sais pas exactement donc, mais il était pas exactement propriétaire quoi, il était, il pouvait louer cet endroit mais c'était pas vraiment, enfin bref, j'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, il y a une vidéo que je vous recommande que moi j'ai vue qui s'appelle Le scandale d'Im Swan au Maroc, qui est une vidéo d'un youtubeur qui recommande des spots de surf qui s'appelle Waved. Et d'ailleurs, lui, il se fait beaucoup attraper le collier par les surfeurs qui disent arrête de recommander les spots de surf parce que tu renvoies des débutants surfeurs sur nos spots. Ce qui évidemment peut être agaçant. Donc il explique que lui maintenant il recommande plus les spots, enfin il recommande pas les spots secrets, tu vois, mais les spots où tout le monde va déjà, bah voilà, il dit un peu son avis et tout. Et donc là il disait bah en fait j'ai une place un peu bizarre où en fait moi j'ai parlé d'Im Swan, donc il y a certainement des gens qui sont allés à Im Swan sur mes conseils et c'est ce tourisme là qui a fait que Im Swan a été détruite. Et donc mais il est là et...
pourquoi? Parce que ils ont dit on va tout détruire parce qu'on en a marre des surfeurs.
Non, parce qu'on va construire des resorts,
vendre plus cher à des gens qui vont faire.
En fait,
des
on va faire un tourisme
de luxe,
balnéaire, plus de luxe, tu vois. Que là, c'était
le
des gens.
C'est ce qui à Maurice, c'est ce qui détruit l'île. Voilà. C'est fréquent, ouais.
C'est ça. Et même à Tamraght, là où j'étais, donc Tamraght, qui est un petit village à côté de Tarazout, mais Tarazout, pareil, j'avais un pote qui était venu là 8 ans auparavant. Ça avait complètement changé. Là, t'as énormément d'hôtels. Là, Tamraght, t'avais beaucoup de resorts qui étaient en pleine construction. Donc, voilà, c'est pour un tourisme qui se développe. Mais du coup, pour les habitants, enfin, c'est terrible, tu vois. Et donc, Waved, il demandait justement à ce mec-là qui habitait dans la troglodyte d'Im Swan. Il lui demandait, mais moi, en tant que influenceur de gens qui ont poussé
le gouvernement à faire ça, quoi.
Bah, pas directement, tu vois, mais t'as emmené des gens au Maroc, t'as emmené des gens à Im Swan, et donc t'as une responsabilité, en fait, dans ce qui se passe. Comment on doit réagir? Et donc, le mec disait, bah, c'est trop bien d'avoir du tourisme à Im Swan, c'est trop bien parce que ça développe de fou l'économie, ça crée des emplois, etc. Mais c'est juste, il faut bien être clair. Dans la communication qu'on fait aux gens, de quel genre de tourisme on veut. Et pas et de dire, bah, en fait, on veut pas aller dans des hôtels 5 étoiles, tu vois. Et moi, je sais très bien que là, alors je vous ai recommandé mon ProSurf Marocco au Maroc parce que c'est une auberge vraiment de surf. Voilà, t'as des profs de surf, c'est tenu par des Marocains, etc. En réalité, moi, là où je logeais, mais je le savais pas à l'époque, c'était tenu par des Français. Moi, mes cours étaient avec ProSurf Marocco, mais ils ont aussi une auberge. Mais là où je logeais, c'était tenu par des Français, etc. Et donc, c'est des Français qui arrivent, qui rachètent un truc,
qui font leur business,
un truc bohème à la française. Donc voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à être à table avec des gens qui viennent là parce qu'ils aiment bien l'esprit surf et tout, mais ils vont pas surfer. Enfin, voilà.
Et
c'est pas...
ce qui se passe à Bali aussi. Et dans
c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que moi, quand j'allais à Bali il y a 10-12 ans et en Thaïlande, t'avais déjà une énorme population de gens qui venaient débuter le surf, dont j'ai fait partie en vrai, tu vois, donc je peux rien dire. Mais c'était beaucoup tous ces petits blancs qui venaient, qui faisaient du surf. En plus, souvent pour la posture, pas pour l'amour du sport ni de l'océan. Et ça exaspérait les locaux qui, eux, en plus, surfaient depuis qu'ils étaient gamins, qui avaient envie un peu d'avoir leur espace préservé. C'est ça qui se passe aussi à Maurice. Donc, c'est un petit peu insupportable.
Et à Maurice, j'avais vu les surfeurs à Maurice, parce que du coup, il y a beaucoup de surfeurs à La Réunion, parce qu'il y a beaucoup de vagues à La Réunion. Et à Maurice, t'as des vagues, mais de temps en temps. Et donc, t'as les white shorts.
Et que au sud, en plus. Donc,
ouais. Et donc, t'as les white shorts, qui sont un groupe de locaux qui en fait virent les touristes des vagues quand il y en a, et donc ils disent dégagez, et du coup ça crée une tension vraiment dans le milieu du surf en fait, où t'as vraiment un, et moi je l'ai vu parce que donc je suis encore je suis plus toute débutante, mais je reste quand même dans les débutants, voilà quoi. Je sais à peu près surfer, mais je suis pas au courant de tout. Et j'ai bien vu, à un moment, j'ai coupé la priorité d'un type, Im Swan, justement. Oh, j'ai cru que j'allais me faire défoncer du regard, quoi. Tellement Et mais je comprends, c'est chiant en fait les, mais en même temps bah c'est quand même un sport super, tu vois. Mais peut-être
oui, mais en fait la question c'est est-ce qu'il peut se pratiquer ailleurs que non, dans des ouais. lieux paradisiaques où
ça fout la merde partout. Enfin, il y a même cette histoire à la Réunion, je me rappelle de, il y avait enfin pendant longtemps où tout le monde allait envahir la Réunion, enfin les surfeurs allaient envahir la Réunion, ce qui fait que il y a eu des problèmes en effet avec les requins, ce qui a fait que le gouvernement a commencé à orchestrer des massacres de requins, donc a littéralement niqué la faune endémique en plus à la Réunion. Ouais. Et en fait, c'est vraiment pénible. Et ouais.
Mais ouais, du coup, faire attention quand on.
Mais par ailleurs, c'est vrai que le truc du gouvernement était intéressant de pas permettre le, la propriété directement accès. Parce que par exemple, à l'île Maurice, c'est le truc qui rend complètement fou. Moi, quand j'étais petite, il y avait plein de plages où on allait, où en fait tout le monde pouvait aller à la plage. Putain, c'est une plage, quoi.
Ouais.
Et alors maintenant, vu que tout le monde, ils ont c'est commencé privatisé, à faire quoi. Pour les Blancs et surtout pour les Français, qui sont, je crois, les premiers expatriés à aller à l'île Maurice parce que c'est un pays où on parle français, en partie. Donc tout le monde a commencé à aller s'installer à l'île Maurice, qui évidemment les gens riches ont commencé à acheter en masse les propriétés sur les plages à des millions en plus, qui ont fait complètement flamber le prix, enfin de absolument tout sur les côtes. Et donc aujourd'hui ces gens qui ont acheté leur maison ont acheté aussi une partie de la plage, c'est-à-dire que tu peux te balader mais seulement sur la moitié, la première moitié de la plage, donc en fait là où il y a l'eau. Ça veut dire qu'en fait ils ont pensé le truc pour pas que tu viennes avec ta serviette et que tu profites de la mer. Sauf que qui vient profiter de la mer, bah c'est les Mauriciens en fait, les Mauriciens noirs qui sont nés ici, tu vois. Et bon, de toute façon à Maurice c'est un très long débat hein, ce que ont fait les blancs mauriciens, donc les descendants des colons à Maurice, c'est ce qui et ce qui continue à perpétrer aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la dernière fois que j'y suis allée, là en décembre, il y a plein de plages où j'allais quand j'étais petite, où je ne pouvais même plus aller nager, parce qu'en plus moi je vais vraiment pour nager, tu vois. Bref, pas pour être là dans ma maison de connard, quoi. Et tu peux pas parce que bah c'est la propriété de tout le monde et de tous les Français, quoi. Ouais, c'est insupportable. Donc cette idée à l'origine de pas permettre l'accès à la propriété sur les plages, je la trouvais intéressante, mais évidemment, ça finit toujours par être corrompu et te dire que ce que tu vas faire c'est de l'argent, donc.
Bah oui, parce que en vrai, c'est vrai. Moi, les Marocains que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit que le Maroc avait été métamorphosé en quelques années là, et que du coup, avec le tourisme, ça avait complètement changé le pays. Et alors, en plein d'endroits, en bien, parce que parfois, t'as un niveau de vie qui est meilleur, mais parfois, en très mauvais, parce que justement, t'as des fronts de mer comme ça qui sont ravagés et tout. Donc voilà.
Ce qui est malheureux, c'est que dans tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, on ne sait jamais faire les choses à moitié, quoi. C'est genre, il faut toujours qu'on fasse trop et too much. Et donc là, du coup, genre, le gouvernement qui rase des maisons de locaux pour créer des resorts où il y aura probablement genre, des piscines alors que c'est à 3 mètres de la mer, ça rend ouf, quoi.
Ouais, c'est incroyable.
Mais donc, je crois que t'as pas fini l'argumentaire du mec qui vivait dans la troglodyte. Du coup, il disait que c'était cool pour l'économie, mais que...
Ouais, c'était cool pour l'économie, évidemment, de parler d'Im Swan, etc. Ouais. Mais c'était juste, il faut préciser quel genre de tourisme on veut en tant que touriste pour que le gouvernement, en fait, prenne en compte ça.
Ouais.
Et que du coup, parce qu'il y a eu des gouvernements au Maroc qui étaient très aussi pour la conservation du traditionnel marocain et tout. Oui. Mais que là, en fait, pour les touristes, justement, qui veulent mettre les pieds dans l'eau et n'avoir rien à faire, et voilà... oui, ils font ce genre de truc, mais de dire qu'en fait c'est pas ce que tu recherches en tant que touriste quand tu viens au Maroc. Apparemment, il a dit ça, c'est hyper important.
Mais de le dire à qui?
En fait, il le disait à l'influenceur qui influence les gens, qui dit. Donc de dire.
Et puis, de choisir où est-ce que tu vas.
Choisir où tu vas aussi, voilà, de pas.
Vérifier que c'est tenu par des locaux. Enfin, tu vois, genre des trucs qui sont pas très compliqués à faire, je pense.
Eh ben moi, vous inquiétez pas, chaque fois que je suis allée dans ces coins-là, j'ai pas surfé une minute.
Non, mais au-delà du surf, c'est une problématique qui s'impose pour plein d'autres raisons.
Mais oui, c'est ça.
Vois, le tourisme massif au Maroc, c'est un problème même pour les gens qui viennent pas juste surfer, tu vois.
Bah oui, bien évidemment. Oui,
c'est pas au Maroc et partout
ailleurs. Hein. Ouais.
Malheureusement.
Voilà, donc c'était mon gros down en vrai, parce que ça m'a pas mal travaillé. Et je me suis demandé comment j'allais en parler. Donc j'espère que j'ai été la plus claire et la plus sincère possible, parce que ça m'a vraiment fait de la peine de me dire que j'étais une des dernières à voir Im Swan tel qu'il était, quoi. Donc voilà.
Oh là là.
qui veut faire un up?
Pitié.
Bah, il reste plus que moi, hein.
Bah oui.
Alors attends, je sais pas, j'adapte un peu. J'hésite entre deux trucs. Vous voulez un truc culturel ou un truc intime?
Bon, pas, tu vas nous faire rire avec l'intimité?
Peu.
Ah.
Comme bon, tu préfères,
un truc qui nous remonte le moral.
Ouais, remonte-nous le moral.
Je vais parler up, de c'était tenté. La lecture du coup. Ça vous remonte le moral ou un...
Ouais. Okay.
Non mais je vais vous parler d'un truc intime alors. Là je me suis rendu compte que, alors c'est pas vraiment un up, c'est un roller coaster. Okay. Je me suis rendu compte que mon rapport à la maternité était en train de changer.
Mais non.
Et je me suis dit que c'était un truc qu'on avait peu abordé dans ce podcast.
On rappelle que
tu rigoles ou quoi?
Tu dois avoir un petit garçon.
Ah oui, on en a parlé la semaine dernière.
Non mais moi c'était vraiment mon sujet du week-end quoi. Mais bon.
C'est vrai?
Mais ouais, c'est dingue.
Décidément.
Décidément.
Je vais mettre télépathique. En fait, dans mon entourage, là, j'ai quelques amis qui commencent à faire des enfants. Et c'est pas tout à fait nouveau pour moi, mais un peu. J'avais déjà mon amie Ophélia, qui a une petite fille aujourd'hui qui a 6 ans, mais qui, elle, vit en Thaïlande. Et donc, du coup, ma papa, j'allais dire, elle est folle, sa fille. Bon, bref. C'est une gamine que je vois pas souvent. Là, ça fait 4 ans que la dernière fois que j'étais en Thaïlande, donc c'est la dernière fois que je l'ai vue. À chaque fois, elle doit venir en France, mais on n'arrive pas à se capter. Bon, bref. Donc ça, c'était ma copine qui avait un enfant. J'ai une autre copine qui avait un enfant qui s'appelle Marie-Agnès, qui a eu un enfant quand on avait 20 ans. Et c'était une de mes amies d'enfance, mais elle est partie aussi s'installer à l'étranger. Donc, c'est des enfants que je n'ai pas vus grandir. Et là, j'ai des amis proches qui sont en train de faire des enfants. J'ai mon amie Laura qui habite à Barcelone, qui a déjà un petit garçon qui va avoir 3 ans, qui s'appelle Sacha, et qui vient d'accoucher d'un autre petit garçon qui est absolument trop mignon et que je vais voir pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines en Espagne. Et j'ai ma copine Anne-Lise qui est enceinte, là, qui accouche la semaine prochaine ou à la fin de cette semaine-là.
Elle n'a toujours
et
pas accouché.
Non, elle a toujours pas accouché. Oh, et elle est vraiment. Et en fait, au début, je l'ai un peu mal pris quand mes copines sont tombées enceintes. Notamment pour une raison principale que je vais vous expliquer tout de suite. C'est par exemple cet été, j'avais prévu quoi? J'avais prévu d'aller une semaine à Barcelone et de voir quelques jours ma copine Laura. Et aussi, j'avais prévu d'inviter ma copine Anne-Lise à passer quelques jours à la campagne. Et donc, ma copine Anne-Lise, c'est ma copine de levage de coude. Genre, quand elle est là, c'est une fêtarde et on adore picoler du rosé par bouteille de 2 litres, quoi.
Je l'ai mal pris car personne ne boit avec moi, putain.
Et du coup, j'aurais le bien passer le week-end.
Tous ces gens enceints, putain.
Et du coup, j'aurais le bien à la campagne. J'avais acheté des tonnes de bouteilles, j'étais là, j'ai amour et tu vas voir, pff, quand on est ensemble avec Anise et qu'on est bourré, on est trop marrant.
Et là, elle t'annonce qu'elle
et
est
genre,
enceinte.
Et genre, elle arrive et tout, et je lui sers un verre de rosé tout de suite et elle me dit, ma bille, je voulais pas te le dire avant et tout, mais je suis enceinte. Et moi, franchement,
vous avez pas sa tête, mais nous, on a compris.
Mon premier sentiment, c'était nique sa mère. Je vais pas pouvoir me la coller ce week-end. C'est vraiment le premier truc qui m'a traversé l'esprit. Et après, Laura, pareil, je vais à Barcelone, à son mioche déjà, qui partageait la chambre à côté de moi, qui me hurlait dans les oreilles à 6h du matin. Et en plus, elle m'annonce un autre enfant, donc on peut même pas faire la fête, tu vois. Trop chiant. Et puis en fait après je suis sortie de mon nombril et je me suis dit bah cool pour mes amis parce que je sais que c'était un truc qu'elle voulait faire. Alors Laura, j'ignorais que c'était se reproduire autant, hein, j'avoue. J'ai été surprise, mais Anne-Lise, je savais, elle vient d'une famille plus traditionnelle, catholique et tout. Je savais que être maman, faire des enfants, c'était quelque chose d'important pour elle. Donc j'étais contente qu'elle arrive à atteindre ce stade-là dans sa vie. Et là, j'ai ma copine Laura, mon autre copine Laura, qui m'a annoncé, on a dîné ensemble il y a 3 jours, et qui m'a dit, bah voilà, avec mon mec, c'est pour cet été-là, on se lance vraiment dans le truc. Okay. On va commencer à faire, je voulais te le
l'amour.
Dire...
Faire du
on a commencé
sexe
à faire l'amour,
non protégé.
Et voilà, et j'ai ma meilleure amie, je vais pas la citer, mais voilà, qui elle veut faire un enfant, mais elle c'est un projet depuis 2 ans et vraiment elle est un peu obsédée par ça et tout. Donc vraiment autour de moi ça commence à
pue fleurir, l'huile.
Quoi. Ouais, ça commence à vraiment. Et du coup c'est con, mais un truc que j'avais complètement rejeté auparavant, bah a commencé à. En vrai je me suis dit un truc.
T'es influençable de fou.
Ouais, de fou. En fait tu sais ce que je me suis dit c'est putain, comment ce serait trop bien d'être enceinte en même temps que Laura. Non, mais pour un truc... Non, mais ça a l'air complètement con, mais ça l'est pas tant. C'est qu'en vrai, l'aventure de faire un enfant, c'est tellement pantagruélique, c'est tellement un truc qui t'engage ad vitam aeternam que le faire toute seule, enfin, le faire avec la personne qui partage ta vie ou pas, d'ailleurs, ça peut être un choix. Mais je veux dire, c'est très peu d'eux pour élever un enfant. Et c'est toi qui en parlais quand tu parlais de tes amis qui viennent de faire un enfant. c'est tellement peu d'être deux dans cette aventure aussi effrayante, tu vois. Mmh. Et moi, je me dis, le faire de concert avec des gens qui sont ma famille...
De conserve comme...
Pardon, de conserve, exactement. De le faire avec notamment Laura, qui est vraiment quelqu'un d'à part dans ma vie, qui est pour moi l'être le plus pur et le plus parfait qui existe et sur qui je n'ai jamais rien à redire. Et c'est tellement quelqu'un que je considère être vraiment comme ma sœur, que de partager ça avec elle, d'avoir l'impression d'élever un peu nos enfants ensemble, est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, tu vois.
Tu sais qu'elle aura, elle va avoir un enfant.
Ouais.
C'est aussi possible que t'aies un enfant plus tard quand toi tu seras prête et qu'elle soit là pour te donner des conseils.
C'est ce que voilà. Donc moi je dis pas que là je vais faire un enfant après-demain, c'est pas du tout le truc. Mais
de toute manière ton voyant t'a dit
exactement
2025.
Et puis non, en vrai il y a aussi le fait que moi la maternité ça a toujours été un truc que j'avais rejeté parce que j'ai eu une maladie au niveau de mon petit bassin qui fait que il me reste plus qu'une trompe et une trompe en plus qu'il faut que j'enlève et j'arrête pas de repousser l'opération et tout et en plus je pense très sincèrement que j'ai des problèmes de fertilité puisque moi pour ne rien vous cacher je n'ai pas pris de contraception depuis plus de 10 ans, aucune pilule, je ne mets en tout cas dans les couples qui tiennent et qui durent, et c'est en général mon modèle, je me mets toujours en couple pendant des années avec des hommes, donc je n'utilise pas de préservatif, je n'utilise pas de pâte, je n'ai aucune contraception depuis 10 ans, elle ne m'est rien arrivé en 10 ans.
Et tu fais le retrait ?
Ah non, non. Bah en fait, moi j'ai toujours admis que j'avais une maladie et que de fait c'était très compliqué. Et ce qui était une connerie, hein, mais bon, c'est pas la question. Tu vois, je sais que ce que j'ai fait c'était absolument n'importe quoi. Mais pour dire, tu vois, il y avait ce truc-là au-dessus de ma tête de toute façon, tu peux pas en avoir. Qui, quelque part, influence aussi ton jugement et ton désir. Et puis aussi, je suis de plus en plus éco-anxieuse. Je suis de plus en plus anxieuse de manière générale au fur et à mesure du fait que je vieillisse. Et 1000 questions se sont posées, en tout cas moi, dans mon couple, sur est-ce qu'on fait un enfant et est-ce qu'on fait un enfant aujourd'hui dans ce monde-là. Et je sais que mon compagnon, évidemment, c'est quelque chose qui fait réfléchir aussi, est très désireux d'avoir un enfant, était déjà désireux d'avoir un enfant avec son ancienne compagne. C'est quelque chose qui revient régulièrement, mais sur lequel il ne m'a jamais de la vie mis la moindre pression. Et je pense même qu'il avait un peu abandonné l'idée, parce qu'au début, quand on s'est mis ensemble, il y a un peu plus de 3 ans, moi, c'était un enfant... Never. Et en
attends,
fait, à chaque fois que j'approche, voilà.
Moi, à chaque fois, tu me dis, moi, je veux élever mon enfant comme un loup, il va se rouler dans la boue.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'il y a aussi va être roi des océans aussi.
Et je croyais aussi que tu détestais les enfants depuis que t'es enfant. Genre, même quand t'étais enfant, tu
J'aimais pas les
enfants.
Quand j'étais enfant, j'aimais pas les ados quand j'étais ado.
T'aimes pas les adultes aujourd'hui.
Non mais oui, j'ai jamais été fan des enfants, mais bon ça je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas fans d'enfants et qui ont envie d'en faire un eux-mêmes, pour plein d'autres raisons.
C'est-à-dire je pense à un attachement un peu différent au fait que ça soit
le tien,
ta chair, oui.
Tout à fait. Et puis en fait c'est con, mais je ressens... Alors non, parfois, quand je vais avoir mes règles notamment, ce qui est le cas aujourd'hui, quand je vais avoir mes règles, j'ai toujours un peu tendance à me dire « pourquoi pas ?» Après tout, j'ai une maison à la campagne et c'est aussi un truc qui m'interdisait d'y songer ou en tout cas qui me faisait dire never quand j'étais plus jeune. C'était d'élever un môme ici dans 40 mètres carrés de merde avec deux chats, prendre la merdasse quoi. Et là, bon, on a quand même une maison à la campagne, on a un appartement en Espagne à 2 mètres de la mer. J'ai quand même une famille à Maurice. Il y a quand même des cadres où je peux déménager, etc., où je peux offrir une vie qui est un peu plus sympa qu'ici, entre quatre murs, à Paris quoi. Donc c'est un stress en moins. Voilà, c'est des possibilités en plus en tout cas. Et donc la petite graine germe bien que de temps en temps. Tu vois, il y a quelques années, j'étais en Grèce et j'ai vu une femme avec son bébé. Et puis tu sais, là, quand on était en... Comment ça s'appelle ?
Sardaigne.
En Sardaigne, merci. quand on a fait le bateau, tu sais, il y avait cette dame avec... Il y avait une dame, était sur un bateau. Elle avait un tout nouveau-né.
Il y avait une petite fille aussi. Tu te souviens pas la petite fille ?
Ah non, ça je me rappelle pas. Je me souviens d'un bébé et le bateau, c'était un hors-bord qui faisait dans les vagues et tout. Et le bébé ne chouinait pas, était truffe au vent en train de... Je me suis dit, waouh, quel enfant super ! Alors ce sera sans doute pas mon enfant.
quel enfant super sur un quart d'heure en fait.
Non, mais je me suis dit, en tout cas, c'est pas une gamine effrayée par prendre le bateau, c'est déjà ça, tu vois, chambé.
Je crois pas que ce soit le principal problème de faire des enfants qui soient effrayés par le bateau.
Si, ça peut l'être en fait.
Non, parce que Kalindi veut pas que ses enfants soient des vicos.
Elle m'a dit, moi mon enfant.
Mais non, mais pas vicos. Tu sais, genre, je sais que tu veux pas que ce soit des princesses.
Ouais, bah moi j'ai horreur des princesses, j'ai horreur des gens qui font des manières, j'ai horreur des gens qui ont peur de tout, ça m'agace dans la vie.
Elle m'a dit ça juste après m'avoir traîné hors de l'eau en Sardaigne pendant que moi je hurlais sur les poissons.
J'étais patiente, hein, franchement, parce que j'ai vu combien Alix avait peur de l'eau pour de vrai, et peur de la vase, et peur des algues et des cailloux.
C'est quand je suis fatiguée.
C'est quand je suis fatiguée.
Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de moments où je me dis, en vrai, je sais pas, il y a quand même une petite partie de moi qui a un petit peu envie. Et pour la première fois de ma vie, l'autre jour, au lit, j'ai dit à mon mec, écoute, ne t'enflamme pas à aucun moment. Mais je crois que quelque part, un tout petit truc en moi est en train de germer. Mm. De peut-être, j'ai un peu envie de faire un enfant. Il m'a dit, avec qui?
On l'adore.
Avec qui? Et je lui ai dit, non. Et donc,
j'ai voulu la faire, mais c'est pas fait.
Et je lui ai dit, bah, avec toi et tout. Et donc, il était là, bah, écoute, je veux pas m'enthousiasmer non, en vrai, tu vois, parce que je sais qu'avec toi, les envies passent très vite. Je rappelle que je suis balance. En tout cas, c'est ça qu'utilise ma mère pour dire que je suis indécise.
Ah oui.
Mais voilà. Et donc, je commence à avoir un petit peu envie, quoi. Ça commence à me démanger un petit peu. Et je me dis, c'est vrai, mon voyant m'avait dit, mon médium m'avait dit 2025. Putain. Finalement, 2025, ça va arriver très vite.
Oui.
Donc, voilà, je commence à y en tout cas, pas d'envie prépondérante, mais une envie d'y réfléchir. Mmh. Que j'avais vachement tue pendant très longtemps à cause de plein de problèmes relatifs à ma santé en partie.
Attendre d'attendre un enfant, le podcast de Sophie Rich, vous avez écouté ou pas?
Non. Pas encore.
C'est trop intéressant parce que donc c'est Sophie Rich qui est une créatrice de contenu depuis des années sur internet qui explique comment en fait le projet d'avoir un enfant a toujours été un truc dans sa vie. Moi, je n'écoute jamais les trucs comme ça. Je m'en bats les steaks. Genre, vraiment, la maternité, j'en ai pas plus rien à foutre que ça, quoi. Enfin, genre, vraiment, je m'en fous. Si mes amis ont des enfants, très bien, je les aimerais, tu vois.
Toi, tu sais que tu veux pas d'enfants ou que ça t'intéresse à pourquoi?
Bah, en tout cas, moi, je suis pas du tout dans l'optique d'y réfléchir. Enfin, je sais pas. Ouais. J'ai pas de partenaire dans ma vie. Je vis dans 30 mètres carrés avec
après,
mon chat.
Il y a des gens.
Mais tu pourrais savoir que t'as envie.
Oui, bah, c'est justement, c'est ce qu'elle dit, Sophie Rich. Elle avait envie depuis super longtemps et donc elle a mis tout en œuvre dans sa vie pour faire en sorte de pouvoir créer une famille, tu vois. Sauf un truc. Elle sort avec Clémence, donc du coup.
Avec une femme cis.
Voilà. Donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En tout cas, c'est une autre méthode pour avoir un enfant. Et elle explique en fait ça, tout ce qui est le parcours PMA. Pour elle parle pour les femmes lesbiennes et pour les femmes seules puisque c'est récent que ce soit possible en France.
Pas mais encore, cependant, les sont malades.
Ouais, mais c'est en fait on a le droit en France, mais ce qu'elle explique à chaque fois c'est qu'on n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'il y a un gros manque de gamètes, enfin de dons de gamètes en France. Donc voilà, dans son podcast elle parle beaucoup du don de gamètes, etc. C'est trop intéressant. Et surtout, elle parle du fait d'attendre un enfant. Donc, c'est toute la préparation au truc. J'ai trouvé ça fascinant. Je trouve qu'elle elle dit très bien les choses. Elle a toujours un ton...
elle est drôle, Sophie, en plus.
Léger d'humour, tu vois. Mmh. Mais quand même, elle dit des trucs où elle se met vraiment à nu, tu vois. Et je trouve que ça doit être super inspirant pour les gens qui sont dans la même situation ou qui réfléchissent à ça ou qui, enfin voilà.
Mais tu vois, ça c'est une question qui, dans mon cas, si je décide de le faire, va se poser. C'est-à-dire que je n'aurai pas le choix que de ne pas faire un enfant naturellement, quoi. Donc, et ça c'est un truc ultra effrayant parce qu'en plus j'ai des amis, notamment mon amie Laura en France, qui a l'endométriose très violente qui a conduit à un problème de fertilité. Et elle est en plein dans son parcours là, et c'est vraiment pas facile, envahissant, invasif, décourageant à plein d'égards. Et voilà, donc c'est aussi tout un périple dans lequel.
Mais tu vois, je trouve qu'en disant les mots comme ça, c'est en effet décourageant, en effet c'est difficile, en effet machin. Mais en fait, en écoutant le podcast, tu vois toutes les vraies étapes, parce que quand quelqu'un te dit, je sais pas, fais pas ça, c'est décourageant. Enfin non, pas fais pas ça, mais genre tu veux faire ça, c'est décourageant et fatigant et dur. Mmh. Bah en fait tu vas dire ok c'est fatigant, mais en fait là tu vois vraiment toutes les étapes et c'est une manière je pense de se préparer à comment toi t'aurais réagi à ce moment-là. Puis c'est hyper factuel parce que c'est vrai qu'on n'y connaît rien. Moi je ne savais rien de la PMA, rien. C'est-à-dire je savais même pas que c'était, enfin tu vois que. Tout, je savais rien. Et
j'ai pas savoir rien sur tout notre spécialité.
Mais donc c'est super intéressant d'avoir un témoignage, je trouve, et c'est en ça que je trouve que les podcasts aussi, c'est super. Mm-mm. Et c'est beau, tu vois, d'avoir ce genre de... Tu vois, nous, c'est quand vrai. On vous parle comme ça, c'est pas super.
C'est super, c'est super.
Non, mais ça fait... En fait, le fait de partager des histoires, je trouve que ça dédramatise beaucoup de choses. Ça en dramatise d'autres, évidemment, parce que chacun réagit aussi de sa manière et il arrive des choses terribles, du coup, à certaines personnes et pas à d'autres. Enfin, voilà. Mais de collectionner les témoignages, ça aide, je pense, à prendre des décisions.
Mais j'ai déjà pensé au fait que autour de cette table, il y allait des gens. Il y allait.
Oh là, y allait là, des gens, ouais.
Avoir des gens.
Je vais mettre des verbes. Il y allait peut-être avoir des gens qui allaient devenir parents et que si on continue 4 quarts d'heure assez longtemps, vous allez assister à des basculements de vie, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair.
Comme dans les Marseillais, quoi.
Comme dans les Marseillais. On fera un cinquième quart d'heure mariage ou genre c'est le mariage exclusif de quelqu'un.
Non.
Parce que, ouais, c'est pas comme si on commençait ce podcast à 21 ans,
ouais.
Quoi.
Ouais. Mais tu vois, c'est un truc dont on a vachement parlé au début avec mon mec, où je lui avais dit, en vrai, moi, je veux pas d'enfant. Donc, en vrai, si c'est un vrai projet, peut-être on se met pas ensemble. Parce que, en fait, t'as déjà 35 ans. Et c'est con, mais il me disait, moi, j'ai pas... Enfin, c'est un vrai truc de se dire, là, je me sens l'énergie d'eux. Bah, mais en fait, c'est tellement drainant. Je me sentirais peut-être pas l'énergie à 43 ans, tu vois. Et moi, je voulais pas être responsable de, peut-être, dans 10 ans, un jour, j'ai une épiphanie de je veux faire un homme. Et toi, t'as déjà 50 berges, tu vois. Ouais. Donc, c'est...
50 berges
bah, moi, tu vois, je sais que mine de rien, Amaury, dans 4 ans, il a 40 ans, tu vois. Ça va vite. Donc, ouais. Et moi, ex, je sortais déjà. J'avais un ex qui avait 12 ans de plus que moi. Donc, la question était quand même amenée parce que, bah, il était déjà vieux, enfin, et...
Encore une fois, ils sont pas vieux.
Non, mais je veux dire, vieux pour se dire, dans 20 ans, quand mon gamin aura 20 ans, j'aurai 65 ans, tu vois.
Bah, imagine, moi, mon daron, il a 80 ans, là.
Quoi ? Mon daron, il a 80 balais,
là. Ouais.
Et quoi ?
Ouais.
Mais j'avais...
Non, pardon, 70.
Ah oui, ah ouais, c'était ça, ouais, moi, pardon, je croyais...
Attendez, non, mais c'est juste qu'elle m'a dit...
80, c'est... Ouais, 80, c'est mon grand-père.
80, c'est pas vieux.
Il m'a envoyé un message en me disant « Bien rentré dans ma 8e décennie », et du coup, j'ai switché.
Ah oui, ah oui.
Non, non, il a 70 piges. Mais il a 70 piges et il a une fille qui a 15 ans.
Ah ouais.
Ah ouais.
Mais tu vois, c'est...
C'est bon, un peu... Un
et Amaury, arrêtez pas de me dire en vrai, enfin, je comprends que toi, tu sois pas prête du tout, c'est juste, moi, en effet... Dans quelques années, je serai déjà plus fatiguée. Déjà, je commence à être fatiguée.
Mais moi, je me suis posé la question aussi au moment de me mettre en couple avec mon mec. C'est que, pareil, moi, j'étais en mode, je veux pas d'enfant. Et c'est certain que je n'en voudrais pas, quoi. Et du coup, moi, c'est plutôt l'inverse où je me suis dit, genre, ça se trouve, il va pas vouloir être avec moi parce que je veux pas d'enfant, tu vois.
Mmh. Ah oui.
Et après, je me suis dit, mais avec qui je vais sortir? Et après, je sais plus si c'est Camille, je crois que c'est Camille qui m'a dit, bah avec tous les gars qui sont séparés et qui ont 35 ans et déjà des enfants. J'étais là, ah ouais, c'est vrai.
Ah, je suis sage parfois.
L'autre jour, du coup, je vais chez ma mère et je lui dis, écoute, tombe pas de ta chaise, hein. Je crois peut-être, j'ai un peu envie.
Non, mais
envie,
elle est
quoi.
Déjà en train d'annoncer à la famille entière que ça
en
y est, elle a changé
d'avis. Non, après, ma mère, je lui dis tout, tu vois. Donc, oui. Le moindre truc qui me traverse le fion, je le dis à ma mère, tu vois. Donc là, je lui dis...
C'est pas comme ça qu'on fait les bébés. Hein.
Je lui dis, voilà, là, j'y réfléchis, tu vois. Elle me dit, ah bon ? Je dis, ouais. Et,
fin de la discussion.
Non, et elle me dit, ah ouais, moi, je t'avoue, j'ai un peu la flemme de garder ton enfant, quoi. Et
je J'ai déjà
je garde
toi.
Ton chat.
Ouais. Et elle me dit, parce qu'avant, elle me disait, moi, si tu fais un enfant, je le garderai jamais. Bon, là, on a déjà progressé, tu vois. Elle me dit, franchement, ça me fera un peu chier, mais peut-être je m'y attacherai un peu. Et je lui dis, regarde, au début, tu m'as dit que tu aimais pas Chuchu. Et bah, aujourd'hui, tu l'adores, Chuchu, mon chat.
Mais pareil, les oiseaux, mais ta mère, c'est tout le temps
mais
comme ça.
Mais tout le temps ça, tu vois. Mais pour moi, c'était important aussi de. Enfin, c'est pour ça que j'en parle en vrai, c'est d'être certaine que les gens autour de moi veuillent bien garder mon enfant. Je sonde un peu, tu vois.
Moi, je voudrais bien le garder, j'adore être une tata.
C'est gentil. Moi aussi.
Bon, bah, allez, c'est bon, c'est lancé. On s'y met ce soir.
Être tata, c'est ma passion.
Ouais. Non, mais.
Tu veux pas ?
Ah, si, si, mais c'est juste.
C'est juste. Bon, Alex a dit non, alors finalement, je veux pas d'enfant.
Non, mais. C'est... Ouais. Ouais, je suis. Non, mais c'est juste. Phrase. Je me dis. C'est bien que t'aies des gens qui te disent OK pour le garder. Attends que les gens, parce que moi je le vois avec mon chat par exemple.
Garde vraiment, tu veux dire.
Mon chat, tout le monde m'a dit, mais si, on gardera, on gardera, on le gardera. Mais tous mes amis l'ont effectivement gardé. Mais
une fois.
Une fois.
Moi je veux bien la regarder.
Ah, t'es gentil.
Moi aussi je t'ai dit plein de fois, tu peux la mettre chez moi, c'est juste tu veux pas la mettre chez moi.
Bah non, mais toi il y a les chats, elle va péter les plombs.
Ça fait
beaucoup. Mais aussi, tous mes amis, on commence à avoir des chats. Donc, pense à tous tes amis qui ont déjà des enfants qui voudront pas te garder d'autres enfants, tu vois.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais au contraire, ils vont faire des soirées pyjama.
Mais oui,
ouais, peut-être.
Enfin, voilà, quoi. Des idées comme ça qui fusent, ouais. Qui ne trouveront peut-être pas d'ancrage suffisant à un moment donné pour fleurir et exister.
Non, mais comme quoi, on peut, voilà, se surprendre soi-même.
Mais
et...
oui, là, ça...
Ouais, j'adore ça se surprendre peu, soi-même, quoi. Ouais.
Ah, bah oui. Et puis, en vrai, je pense que je rigolerais, genre.
Oh, tu serais super
gueulerie. Je pense que je rigolerie. Et c'est vrai que j'ai un peu envie d'élever un enfant comme un petit loup, quoi. Et dire, allez, roule-toi un peu dans la terre du jardin.
Ouais. T'auras vachement envie quand tu feras des lessives toutes les deux heures.
Ah non, ils ont à faire ses lessives très rapidement.
Ils sont
faire
ses lessives. Ils se roulent dans la caca, Foresta.
C'est comme ça qu'ils font les facochères. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire pareil.
Merci beaucoup pour tous ces ups et tous ces downs. C'était un épisode fort en émotion.
Oui.
Merci à vous, les 4 cardos, d'être restés jusqu'au bout.
Je suis claquée. Et,
ouais, je suis claquée aussi.
C'est normal, ça fait
comme
une
heure.
Comme
à chaque fois.
Il reste quand même un cinquième quart d'heure, donc on va se remotiver. Allez, abonnez-vous au cinquième quart d'heure, parce qu'on sera là. Et on a des trucs à dire, hein, là, je vous le dis.
Attention. Non, mais il faut dire qu'on a enregistré un premier épisode qui a duré 2 heures, presque.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de parlotte.
Ça fait beaucoup, on s'est beaucoup parlé, ouais. Merci. Suivez-nous sur Instagram.
Non, mais non.
Oui, si.
Oui, ah oui, suivez-nous sur Instagram. Non, mais on n'a pas de compte Instagram.
En tant que personne.
Suivez-nous en tant que personne, mais suivez-nous aussi en tant que podcast. Abonnez-vous à Apple Podcast. Abonnez-vous sur Spotify. Mettez 5 étoiles. Et puis, on vous dit à dans 478 000 quart d'heure.
Non, mais Kalindi, elle a juste quart d'heure.